Le journal des idées.
Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Guillaume. Bonjour à tous.
Il n'y a pas que le festival de Cannes dans la vie. Il y a aussi un autre festival qui débute à Londres. C'est un sommet anti-corruption. Un sommet assez controversé. L'humanité a ouvert ses pages débat à un commissaire divisionnaire spécialiste de l'évasion fiscale.
Oui, Jean-François Guéraud dénonce l'impunité d'une finance qui a inversé le rapport de force prévalant jusqu'aux années 1980 où la politique pouvait exercer son autorité sur le financier. Aujourd'hui, c'est lui qui assoit jour après jour sa domination sur le pouvoir politique et même judiciaire. Une situation qui a des conséquences directes sur nos existences. Le surendettement provoqué par des prêts prédateurs et la spéculation tue. Le contempteur des criminels à col blanc parle d'une zombicratie, un système avide qui sclérose l'économie. Une grande partie du système bancaire international donne l'apparence de la bonne santé, mais c'est un système mortifère, lesté, grevé de mauvaises dettes, donc de prêts non recouvrables, douteux et même parfois frauduleux. Comme dans les films d'horreur, ces morts vivants ne cessent de revenir à la vie. Jean-François Guéraud voit à cela deux raisons. Après la crise de 2008, les banques ont été sauvées par l'argent public avec le sang frais des contribuables et les États se sont refusés à amener les banquiers fraudeurs à l'origine des bulles immobilières et boursières sur le terrain pénal. Pire encore, des lois, notamment en France, ont favorisé l'optimisation fiscale. Face à cette situation, le haut fonctionnaire de police, qui publie « L'art de la guerre financière », estime que les États doivent abandonner le mauvais réflexe de sauver les banques au nom du « too big to fail » et devant la finance dérégulée, redécouvrir les vertus de la punition et de l'interdiction. Des préconisations que ne désavouerait pas Eva Joly, dont le dernier livre taille un costume à Jean-Claude Juncker, l'homme des paradis fiscaux placé à la tête de l'Europe. Jean-Pierre Strauban a lu pour Le Monde, le loup dans la bergerie. Au-delà du cas du Luxembourg, écrit-il, l'ancienne juge a raison de marteler que les populations ne pourront plus tolérer longtemps que l'Europe des pères la rigueur admette que chaque année, 1000 milliards d'impôts échappent aux trésors nationaux en raison de l'inexistence d'une politique fiscale commune aux 28.
Et puis on retrouve également Umberto Eco dans le quotidien Le Monde, un recueil d'essais consacrés à la pensée médiévale a passionné l'historien Patrick Boucheron.
Oui, ces essais renouent avec le hobby de toute une vie employé à égarer son lecteur dans des dédales et complots, falsifications qui ne sont rien d'autre que les réverbérations contemporaines de la grande forêt symbolique du Moyen-Âge. Attendait-il, demande le professeur au Collège de France, de la sémiotique, science méticuleuse des classifications, de quoi mettre de l'ordre dans ce fatras de l'imaginaire, cela pourrait bien être le contraire, dit-il.
Alors par exemple, il avait réussi à faire une interview en 2010, c'était dans la Corriere della Sera, de saint Thomas d'Aquin. Bon, une interview un peu fictive peut-être, Jacques.
Oui, un échange absolument entre Umberto Eco et Thomas d'Aquin. « Je vous vois sourire, maître, lui disait-il, vous n'allez pas si mal qu'on le dit. »« Je souris, lui répondait le docteur Angélique, parce que je sens que d'ici ce soir, je serai mort. » Michel Juffé, lui, a imaginé une correspondance entre Freud et Spinoza, une étonnante et lumineuse entreprise dont il parle à Yann Diner dans Charlie Hebdo. Publiée chez Gallimard, elle fomente la rencontre de deux pensées qui s'éclairent l'une l'autre, mais aussi celle de deux personnes arrimées à leur époque. Il faut voir Freud expliquer à Spinoza l'importance de la sexualité et Spinoza justifier sa lecture laïque de la Bible. Les échanges sont nourris de l'impeccable connaissance par Michel Juffé des œuvres des deux épistoliers, de leurs circonstances historiques et biographiques. Le philosophe, formé à l'école de Gilbert Simondon et Félix Guattari, trouve là un merveilleux plan d'immanence pour conjuguer psychanalyse et philosophie. En réponse à l'inquiétude de Freud face à la montée du nazisme, Spinoza retrace l'histoire de la persécution des juifs en Europe depuis le IVe siècle, des juifs qui, en toutes circonstances, croient naïvement que Dieu viendra les sauver. Cette tragique erreur est à double effet. D'un côté, elle leur donne un courage inouï pour persister à travers tous les malheurs. De l'autre, elle en fait de faciles victimes. Avec, pour finir, le sourire du dessinateur Vuillemin, nous sommes à Charlie, Guillaume, Freud au réveil, en pyjama et bonnet de nuit, le cigare au bec. J'ai fait un rêve angoissant. Spinoza m'écrivait, je mettais un siècle à lui répondre. Merde, je sens que ça va me pourrir la journée.
Bah oui, alors j'imagine que Freud et Spinoza, de quoi parlait-il? Ben voilà, il parlait du Spinoza et du surmoi, peut-être quelque chose comme ça.